IDFM Radio, le média valdoisien. Bonjour et bienvenue sur IDFM Radio, la plus belle des radios d'Île-de-France dans le Val-d'Oise, que vous pouvez écouter en FM sur 98.00, en web radio 98.fr, en DAB+, sur toute l'Île-de-France et dans le monde entier grâce à notre appli. Jacqueline Boraz avec Francky à la technique. Bonjour Francky. Merci d'avoir choisi d'être au rendez-vous de l'économie en direct sur IDFM Radio. Innovation, transition énergétique et développement territorial dans le Val-d'Oise sont-ils conciliables? C'est ce que nous allons explorer ensemble aujourd'hui, vendredi 19 septembre 2025, dans l'économie en direct. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Jean-François Benon, directeur général du CEVO. Bonjour Jean-François.
Bonjour, merci de votre accueil.
Merci d'avoir accepté mon invitation. Avec vous, Jean-François, nous aborderons les leviers d'attractivité économique du Val-d'Oise, les projets phares du CEVO, mais aussi les enjeux de la mobilité aérienne avancée, sachant que votre engagement à promouvoir notre département et en faire un territoire d'excellence n'est plus à démontrer. Également dans le studio, Benoît Géhin. Bonjour Benoît.
Bonjour, merci pour l'accueil.
Fondateur et dirigeant du bureau d'études Phaseo, mais aussi, je précise, alors Phaseo donc est spécialisé en électricité et énergie renouvelable. Fort aujourd'hui de 20 ans d'expérience, vous reviendrez sur les défis constants de votre activité et ses innovations. Et je veux dire au passage aussi à nos auditrices, auditeurs, que vous faites partie de notre radio. Vous avez une émission, puisque
avec
vous êtes
plaisir.
Aussi musicien. Et vous êtes même administrateur d'IDFM Radio. Donc, bienvenue à tous les deux.
Diversité, écoute, partage. IDFM Radio, votre média de proximité.
Jean-François Benon, alors le Val-d'Oise est souvent perçu à juste titre comme un territoire dynamique, mais reste en même temps un territoire peut-être encore trop méconnu. Et est-ce que vous confirmez ce paradoxe ?
Oui, il est de moins en moins méconnu, je vais vous le confirmer, mais sur le plan dynamique, oui, et c'est indubitable, ça tient déjà à un critère qui est évident, c'est que nous sommes l'un des deux départements les plus jeunes de France sur le plan démographique, et ça c'est un signe que on ne peut pas nous enlever. Le Val-d'Oise est un département dans lequel la jeunesse pèse lourd, et on a un solde naturel dans ce département qui est assez impressionnant. On fait partie des territoires dans notre pays qui effectivement accueillent des enfants et donc des jeunes. Alors c'est une chance inouïe à une condition, c'est que ces jeunes soient formés et qu'ils aient la capacité d'accéder à des emplois qualifiés qui leur permettent de se réaliser dans leur vie. C'est un véritable enjeu, cette question de formation est sous-jacente en permanence dans ce territoire, mais enfin, quand on se compare à d'autres parties de notre beau et grand pays, on peut pas dire, nous, qu'on a un problème de déclin démographique, oui. C'est le contraire, mmh. Et on sait tous que dans le monde, les régions et les territoires qui ont un vrai plus en matière de jeunesse et de natalité sont par principe, ou en tout le cas, le potentiel d'être des territoires dynamiques, et je crois que c'est un premier critère. Sur le reste, le Val-d'Oise, depuis des années, est un territoire dont le solde net du nombre des entreprises et des établissements reste positif, malgré les crises successives. Chaque année, dans le Val-d'Oise, depuis une trentaine d'années, le solde, si on fait le solde entre les créations et les disparitions d'établissements, c'est toujours positif. Et ça, c'est quand même aussi un signe de vitalité. Certes, il y a des entreprises qui s'ouvrent, comme partout, qui disparaissent, mais enfin, à la fin de l'année, quand on fait le bilan, il y a toujours un plus. Et on peut avoir à peu près le même critère, même si là, il y a eu parfois, deux fois, à quelques moments, des petits bas, en matière de création d'emplois salariés, enfin de nombre d'emplois de salariés du secteur privé. Le nombre d'emplois salariés du secteur privé a également connu une forte augmentation depuis des années. Il y a eu des petits moments où il a un peu baissé, mais enfin, on reste sur une pente ascendante à moyen terme. Et ça aussi, c'est un signe de dynamique. Voilà. Et puis, en matière d'innovation, mais là, avec votre invité, vous allez encore en faire la preuve, on a effectivement... et on en est heureux. Nous, c'est notre joie quotidienne de rencontrer des entrepreneurs qui réussissent, qui prennent des risques, mais qui réussissent et dans des activités technologiques qui sont quand même assez impressionnantes. Et dans tous les domaines aujourd'hui, le Val d'Oise peut mettre en avant des hommes et des femmes qui s'engagent dans des innovations de très belle qualité. Et voilà. Donc pour toutes ces raisons, oui, notre territoire est. Puis j'oubliais de dire que nous sommes situés au nord, certes, mais au nord de la plus grande région économique européenne. Malgré tout, de temps en temps, on a coutume de se plaindre et de dire qu'on est un peu en souffrance. Ça arrive, bien entendu. Mais si on regarde les statistiques européennes, la région Paris-Île-de-France reste, pour le niveau du pays, le montant du PIB, la première région européenne. Alors, oui, c'est quand même pas rien. Quand on se regarde de l'intérieur de notre région, on se dit qu'on a des problèmes et des souffrances. Quand on se regarde d'autres parties de l'Europe et du monde, on est quand même dans une région sur le plan économique qui reste dynamique. Et IDFM en est l'un des blasons, puisque vous mettez en avant justement tout ce qui correspond à ce que moi j'appelle les verres à moitié plein. Et c'est notre métier aussi. Quand on est au CEVO, on parle des verres à moitié plein et il y en a énormément.
Ici. Vous me faites penser à la citation de Talleyrand, quand je m'observe, je me désole, et quand je me compare, je me console.
Je l'utilise souvent, y compris avec mon équipe d'ailleurs.
C'est vrai. Alors Jean-François, donc vous, directeur général du CEVO, je rappelle que c'est le comité d'expansion du Val d'Oise. Vous savez actionner les leviers d'attractivité économique. Est-ce que vous pouvez nous faire un topo de vos actions?
Oui, notre métier, alors aujourd'hui on s'appelle, le mot comité d'expansion économique reste le terme historique, mais aujourd'hui on se présente comme l'agence de développement et d'attractivité du Val d'Oise. C'est la nouvelle terminologie, parce que c'est ce qu'on utilise aujourd'hui dans les autres départements. On parle beaucoup d'agence, alors on parlait beaucoup d'agence de développement économique. Aujourd'hui on parle de plus en plus dans le monde du développement local d'agence d'attractivité, ce qui est un terme finalement qui inclut un peu plus largement les critères qui font qu'un territoire attire. Cette notion d'attractivité, elle dépasse même le développement économique, parce que au-delà de la dynamique des entreprises, un territoire qui réussit, c'est aussi un territoire qui attire quoi ? Qui attire des populations. Il y a des territoires qui perdent des populations et d'autres qui en attirent. Il y a des territoires, c'est l'attraction de talents, l'attraction de compétences, c'est l'attraction d'investissements, bien entendu, c'est l'attraction de manifestations, de salons, de conventions d'affaires, c'est l'attraction d'établissements universitaires et de formation, etc., etc. L'attraction de touristes également, fait partie de l'attractivité. Donc aujourd'hui, on est beaucoup plus dans ces logiques d'attractivité, et de ce point de vue-là, je crois d'abord qu'il y a une politique qui est menée dans ce département, ça il faut le rappeler. Le conseil départemental du Val-d'Oise, à l'échelle du Val-d'Oise, a adopté il y a un an et demi maintenant un plan stratégique d'attractivité, qui se décline avec tout un tas d'actions concrètes, et donc il y a une vraie volonté politique qui est porté par les élus de ce département. C'est vrai d'ailleurs aussi au niveau des agglomérations, puisque tout le monde travaille un peu dans la même ambiance. À l'échelle du Val d'Oise, le département, mais à l'échelle des territoires, la plupart des intercos ont également des fortes stratégies d'attractivité globale. Et tout ça s'est mis en ordre de marche. Alors, il y a beaucoup de choses à faire, tout n'est pas à gagner à ce stade, mais il y a quand même d'abord cette volonté. Pour le reste, je vous le disais, les éléments le montrent. Nous, le métier que l'on fait, c'est évidemment très orienté vers le monde économique, technologique, universitaire, académique. On laisse à nos collègues du tourisme la sphère purement attraction des visiteurs touristiques. Et c'est un vrai sujet. Et très important pour le Val d'Oise, parce qu'on a des parts de marché à gagner encore. Et il faut inciter les franciliens, notamment, avant d'aller chercher les touristes à l'autre bout du monde, il faut déjà inciter nos amis franciliens à sortir du périphérique de temps en temps et venir voir les charmes d'un territoire qui, à peine à une heure de route du centre de Paris, recèle des ambiances qui sont beaucoup plus belles que certaines provinces profondes françaises. Ouais. Donc, nous étions hier avec le numéro 2 de l'ambassade du Japon à Paris, qui a passé la journée avec nous dans le Val d'Oise. On lui a fait visiter à la fois des entreprises, des des universités, des centres de recherche, etc. Mais en fin de journée, on l'a amené au château d'Auvers-sur-Oise et il a convenu qu'il y a 40 000 Japonais qui vivent à Paris, en région Île-de-France, 40 000. Et rien que cette population de 40 000 Japonais, il est important qu'on leur donne envie de temps en temps de sortir du périphérique et de ne pas aller uniquement à Versailles ou à Giverny, mais d'aller voir un peu la Roche-Guyon et Couhan, Auvers-sur-Oise et tout un tas de, et la maison de Monet Argenteuil, c'est ce qu'on a fait avec le représentant de l'ambassade hier. Voilà. Donc ça, c'est aussi cette attractivité. Je voulais insister sur cette attractivité globale parce que c'est un axe fort que nous développons, nous, évidemment, et que portent les politiques et les élus de ce territoire. En matière de développement économique, le Val d'Oise est attractif. Nous avons déjà dans le Val d'Oise, il est au niveau international, avec évidemment l'ouverture sur le monde que constitue la plateforme aéroportuaire Paris-Charles de Gaulle, Roissy-Charles de Gaulle. Quand on a un aéroport de cette taille, premier aéroport aujourd'hui européen en nombre de passagers, alors je nuance un peu parce que nos amis de Londres Heathrow nous ont redoublé après le Covid, mais je considère qu'ils sont plus dans l'Europe continentale, ils sont plus dans l'Europe communautaire. Alors on joue un peu sur les mots quand on fait de l'attractivité, il faut être un peu malin. Aujourd'hui, c'est vrai que Londres Heathrow nous a redoublé, mais Charles de Gaulle avait 77 millions de passagers avant le Covid, il est quasiment remonté à ce chiffre et on est de très loin le premier aéroport européen pour le nombre de passagers en Europe continentale, en Europe communautaire. Et ça, c'est pas neutre, parce que c'est un élément qui caractérise notre département, qu'on le veuille ou non. On sait, en Guyen-les-Bains en particulier, combien les avions peuvent avoir des effets perturbants, même si chaque génération d'avions fait quand même progresser. Chaque génération d'avions, c'est 5 décibels de moins. Alors, il faut du temps pour qu'on arrive à zéro.
Trouver l'équilibre entre le développement et puis pas l'excès.
Bien entendu. Et c'est les sujets, d'ailleurs, du plan qui est développé actuellement par le groupe ADP, dont nous allons parler avec le président d'Aéroports de Paris, puisque ils ont mis en place un plan stratégique qui s'appelle Roissy-Charles de Gaulle 2050 et qui de plus en plus prend en compte ces éléments. Et on travaille, vous le savez, sur l'avion à hydrogène, l'avion électrique. On parlera peut-être de la mobilité aérienne avancée qui est à base d'engins, d'aéronefs totalement électriques. Donc il est en train de se passer des choses. Alors je dis pas que ça va se passer immédiatement, mais enfin, même le transport aérien s'est mis en ordre de marche et je pense que l'objectif 2050, les compagnies aériennes l'ont quand même intégré, on le voit autour de l'utilisation des biocarburants, etc. Voilà. Donc je referme la parenthèse, mais pour dire que qu'on le veuille ou non, ce département est marqué par la présence de cette porte d'entrée, de cette porte ouverte sur le monde que constitue Charles de Gaulle. Et quand on est à l'étranger, personne ne connaît évidemment le Val d'Oise. Personne ne connaît forcément le détail des coûts, des limites. Mais quand on dit que nous venons du territoire qui accueille l'aéroport Paris-Charles de Gaulle, quel que soit le pays dans lequel on se trouve, immédiatement, même si on ne connaît pas bien, on imagine immédiatement un territoire qui a de la dynamique économique. C'est normal. Charles de Gaulle, c'est quand même un aéroport qui parle. On doit être le 6e aéroport du monde pour le nombre des passagers et l'activité, et pour le fret également. Donc, évidemment, on a une marque de fabrique. Il faut l'assumer. Elle est ce qu'elle est. Certes, il y a encore une fois des contraintes environnementales sur lesquelles il faut travailler. On y travaille. C'est d'ailleurs l'objet d'un grand séminaire que l'on organise, on pourra en parler si vous le souhaitez, sur le développement des places aéroportuaires durables, Sustainable Airport Areas, que l'on organise dans le monde entier tous les ans et dont on est co-organisateur. C'est un sujet qui nous préoccupe. Il ne faut pas croire que parce qu'on s'intéresse au développement économique et à l'arrivée de nouvelles entreprises, on se désintéresse des sujets d'environnement. On est dans un territoire...
Je ne sais pas si c'est le lieu et l'endroit par rapport... Oui, je me permets d'intervenir.
Oui, bien sûr.
Jean-François Benon est dans le développement du département, c'est très bien. Nous, on est dans le côté entreprise, donc on essaie de faire notre place et d'intervenir et avoir les affaires qui vont bien. Moi, pour ma part, j'ai quasiment pas de business dans le Val d'Oise, mais j'en avais répondu. On a notre siège, mais voilà, mais c'est pas grave, hein, on peut pas non plus tout prendre. On avait répondu sur un projet conséquent pour l'ADP, pour le déploiement d'études solaires sur différents sites de Roissy. On est compétitif, on a quand même 20 ans d'expérience, on a quand même les équipes qui vont bien, et on n'a pas été retenu simplement parce que on n'était pas le grand groupe.
Ah oui.
avec les casquettes, avec les tout ce qui va bien autour. Je trouve que c'est un peu malheureux parce que heureusement que pour les JO ça s'est pas fait de cette manière, parce qu'on n'aurait pas eu les projets qu'on a eu pour les JO. On a eu des super projets, on a fait des belles affaires, puisqu'on est là, on était plutôt dans la partie éclairagisme et économie d'énergie. Donc on avait on a gagné des beaux projets parce qu'il avait été imposé aux JO un cadre de faire intervenir des TPE, enfin comme la nôtre, et des locaux, ce qui fait que c'est ça a du sens. Et en fait, il s'avère que pour l'ADP, on a c'était bien indiqué, c'est parce que la structure n'était pas suffisamment grosse pour eux. Mais si je réponds, c'est que je sais que je vais pouvoir faire le travail. Je vais pas perdre du temps. Donc c'est pour ça que des fois, c'est un peu gênant. Des fois,
j'entends des structures et comme ça qui. Vous pouvez compter sur nous pour parce que c'est un vrai sujet en matière de. Nous, on considère qu'un aéroport. Et c'est un sujet qu'on aborde avec les autorités du groupe ADP, avec le prédécesseur de M. Pascal et avec lui qui vient d'arriver il y a quelques mois. Nous, on estime que, en contrepartie des contraintes environnementales qui sont réelles, du bruit, des nuisances, de la qualité de vie des habitants, qui est une réalité, on ne va pas le cacher. Quand on a un aéroport qui est de cette taille-là, qui fonctionne 24/24, ça a forcément des retombées, on le sait bien quand on est en vallée de Montmorency notamment. Bon. Et donc, l'un des messages que l'on passe aux responsables d'ADP depuis des années, c'est de leur dire, vous devez aussi faire preuve de citoyenneté par rapport aux territoires proches. On avait le même discours avec Air France, d'ailleurs, qui pendant des années, à l'époque de Michel Blanc, Christian Blanc, avait mis en place des politiques de recrutement un peu orientées vers des populations qui habitaient à proximité de l'aéroport pour intégrer dans les effectifs d'Air France des jeunes du secteur. Parce qu'on ne peut pas à la fois avoir cette politique de développement du transport aérien et de ne pas avoir des retombées immédiates pour les populations qui vivent à côté. Évidemment. Et ça, c'est un sujet majeur qui fait partie justement de cette notion de développement durable des places aéroportuaires. C'est tous les sujets que l'on aborde avec nos collègues dans le monde entier sur ces thématiques pour voir les aéroports qui sont exemplaires. Et il y a des aéroports qui sont exemplaires. Avec ADP, on a parfois des hauts et des bas, il faut bien le reconnaître. Et c'est des sujets que l'on veut travailler avec eux et leur rappeler en permanence que quand il y a des stratégies de développement des activités aéroportuaires, on doit aussi intégrer. Alors, la main sur le cœur, ils nous expliquent qu'ils font des choses, et c'est exact, il y a des politiques. Mais elles sont, et vous en faites l'exemple avec ce que vous dites, il y a sans doute encore des gros progrès à faire sur, par exemple, avoir une stratégie de priorisation, et ils peuvent le faire, ils peuvent l'assumer.
Moi, je ne demandais pas une priorisation.
Non, mais on peut quand même donner...
C'est simplement égal à égal. Oui. Et ce qui s'est passé, ben, on s'est fait... on n'a pas été retenu dans la suite.
Bien sûr.
Pas pour une histoire de prix, pas
simplement...
C'est très il faut laisser la chance.
En tous les cas, je reviens. Leur cahier des charges ne prévoyait pas d'entreprise comme la vôtre.
Bah si, le cahier des charges, puisqu'on a chiffré, j'avais vu qu'il y avait un
astérix.
Mais
dans le choix, ça n'a pas été
dans le choix, ça n'a pas été le cas. Et je trouve que c'est quand même...
Mais écoutez...
D'ailleurs, pour ADP, juste entre parenthèses, je me suis rendu compte que maintenant, les avions volaient au-dessus de Argenteuil, ce qui n'était pas le cas... avant le mois d'août.
Ah bon,
donc là, j'ai vu que c'est plus les mêmes couloirs. Alors, je sais pas pourquoi.
Ils avaient déjà une certaine altitude quand même.
On les entendait pas en mois de juin.
Mais en tous les cas, voilà, nous, je retiens votre exemple parce que moi, j'ai toujours besoin d'avoir dans les discussions qu'on peut avoir avec des responsables des retours, de ce niveau. Parler dans le vide, ça n'a pas beaucoup d'intérêt.
Je pourrais donner le document.
J'oublie rien. Et donc, dans les discussions qu'on pourra avoir, vous pouvez compter sur moi pour citer un exemple concret parce que c'est toujours beaucoup plus clair quand on cite un exemple concret, et quand on a un décideur face à nous, quand on lui parle un peu comme ça, tel jour a déposé un dossier, elle n'a pas été retenue. Le sujet est ouvert. Voilà. Alors, vous pouvez compter sur nous. On est là aussi pour être les porte-parole des entreprises du Val-d'Oise. C'est notre métier. On va le faire. Voilà. Donc, je voulais terminer là-dessus en vous disant, ce territoire est marqué par cette ouverture au monde. Mmh. C'est intrinsèque. D'ailleurs, ça se traduit aussi dans des critères auxquels on ne pense pas spontanément. On a reçu il y a quelques jours des statistiques départementalisées très riches et qui méritent d'être analysées. D'ailleurs, passionnantes de la Direction Générale des Douanes qui montrent le niveau de l'exportation département par département. On n'a pas toujours ces statistiques. Le Val-d'Oise est un département en Île-de-France, le deuxième ou troisième département en Île-de-France pour le montant des exportations, et ça correspond à cette idée qu'on se fait de ce département. On est un département qui est en connexion avec le monde, ouvert sur le monde, un territoire d'accueil, une porte d'entrée, une porte ouverte sur le monde, et c'est un des critères évidemment que l'on met en avant quand il s'agit de d'inciter des entreprises à venir s'installer ici. Je rappelle un dernier chiffre, dans le Val d'Oise, on a déjà 1200 entreprises à capitaux majoritairement étrangers, des sociétés étrangères, et ce chiffre augmente. On était hier avec les Japonais, je vous l'ai dit, de l'ambassade. On a actuellement 3 dossiers de nouvelles entreprises japonaises qui souhaitent, qui travaillent avec nous, auxquelles on fait des propositions de terrain pour s'installer dans le Val d'Oise. On croise les doigts et on pense qu'on va y arriver. On a déjà plus de 60 sociétés japonaises dans le Val-d'Oise.
On sait que vous êtes très fort pour ça.
Oui, mais c'est une vieille histoire. C'est 40 ans de travail.
C'est vrai.
40 ans de travail, mais 60 sociétés implantées. Et chaque année, le Val-d'Oise accueille entre 1 et 4 sociétés japonaises, quand même.
Jean-François, je sais que vous êtes passionné, intarissable, mais moi, il faut qu'on fasse quelques pauses de musique. Quelques pauses, en tout cas. Je vous en propose une avec Saoud Zagazan, la Symphonie des éclairs, et on se retrouve juste après.
Il fait toujours beau au-dessus des nuages, mais moi si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage, je traverserais les nuages comme le fait la lumière, j'écouterais sous la pluie la symphonie des éclairs. Dès sa plus tendre enfance, elle ne savait pas parler autrement qu'en criant tout bas. Pas faute d'essayer de les retenir, ses cris et ses larmes qui les faisaient tant. Il fait toujours beau au-dessus des nuages, mais moi si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage, je traverserais les nuages comme le fait la lumière, j'écouterais sous la pluie la symphonie des éclairs. En grandissant, rien ne s'est calmé. Petite tempête s'est trouvée. Des raisons de pleuvoir autant. Qui pourrait l'aimer franchement? Personne n'aimerait se retrouver au cœur d'une tempête avouée. Il y a des raisons de pleurer. Elle a ses raisons, mais il fait toujours beau au-dessus des nuages. Mais moi, si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage. Je traverserais les nuages comme le fait la lumière, j'écouterai sous la pluie la symphonie des éclairs. S'échapper du vent et se retrouver dans le cœur des gens, celle-ci s'est dit, nulle raison d'envier le soleil, je ferai danser les gens, rythme de mes pleurs, la tourmente de mes chants viendra réchauffer les cœurs, réchauffer. Beau au-dessus des nuages, mais moi je suis de ces oiseaux qui nous font danser sous l'orage. Je traverserai tous les nuages pour trouver la lumière en chantant sous la pluie la symphonie des éclairs.
Vous écoutez IDFM Radio sur le 98 FM.
C'est l'économie en direct sur IDFM Radio. Merci d'être à notre écoute jusqu'à 11h en compagnie de Jean-François Benon, directeur général du CEVO, et Benoît Géhin, fondateur et dirigeant de Phaseo, un bureau d'études spécialisé en électricité et énergie renouvelable. Donc Jean-François et Benoît, on comprend que tous les deux vous êtes des passionnés du Val d'Oise. Jean-François, parmi les projets emblématiques portés par le CEVO, pouvez-vous nous citer des projets comme ça qui illustrent votre stratégie?
Bah écoutez, nous on essaye d'abord de travailler dans un cadre. Le cadre qui est un peu notre feuille de route, c'est ce qu'on appelle le schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation. C'est un peu technique et technocratique, mais c'est un document qui existe dans toutes les régions françaises, qui a été adopté par le Conseil régional d'Île-de-France et fait par le préfet de région, et c'est un peu la feuille de route des stratégies en matière de filière technologique pour jusqu'en 2028. Donc on s'inscrit évidemment dans cette feuille de route, c'est une sorte de mandat qui est donné par les organismes et les collectivités qui nous financent, puisque nous sommes financés, nous, à 85% par de l'argent public, ce qui veut dire quand même qu'on a 15% de recettes privées quand même, faut le dire quand même. Oui. Et c'est rare dans nos métiers, on est très rare. Dans les agences de développement, c'est plutôt du 100% argent public. Nous, on est à 85%. On a quand même la capacité à facturer 15% de
nos
activités. Comme IDFM. À peu près. Et donc, dans cette feuille de route, qu'est-ce qu'on dit? On donne des stratégies sur les filières à développer. Il y a dans le Val d'Oise des filières qui se portent très bien, même s'il y a des hauts et des bas et que c'est toujours un peu subtil et compliqué. L'aéronautique est en plein boom. Mais contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est pas si simple que ça. On peut avoir des milliers de commandes de pièces pour l'aéronautique, ce qui est le cas. Nos entreprises sous-traitantes ont des commandes incroyables. Elles ont d'ailleurs beaucoup de mal en matière de ressources humaines pour avoir la main d'œuvre pour faire face aux commandes d'Airbus, de Boeing, d'Embraer et des autres. Donc on peut pas dire qu'on se porte mal. C'est même énorme ici la pression dans nos sous-traitants aéronautiques.
Ce sont des métiers en tension.
Étonnamment, on a des entreprises qui ont des volumes d'affaires sur 6 ans, les carnets de commandes pleins, qui nous disent, et ça c'est quand même très inquiétant, malgré ça, on a des situations économiques difficiles. Alors, ça paraît paradoxal, parce que la pression des donneurs d'ordre type Airbus et d'autres, Dassault et beaucoup d'autres, je ne veux pas citer Embraer, Boeing, etc., est tellement forte sur les prix qu'en réalité, ils ont des difficultés financières. Et on a comme ça des sous-traitants qui, alors que les carnets de commandes sont pleins pendant 6 ans, ont en réalité des tensions de trésorerie et des difficultés financières. Ça veut dire qu'on peut mourir en bonne santé dans des filières comme ça. C'est quand même des vrais sujets de préoccupation et
pour beaucoup d'entreprises, c'est le cas. Même des bureaux d'études qui ont les carnets, les commandes pleines, mais qui sont obligés de déposer le bilan.
Voilà. Ça nous fait souffrir. C'est des sujets qui sont quand même préoccupants. Donc, il y a un travail à faire aussi sur les donneurs d'ordre, ou les grands groupes, ou les gros clients. On en parlait tout à l'heure. Il suffit pas de passer des commandes. Il faut aussi que les commandes soient à un juste prix et notamment qu'elles permettent d'employer une main-d'œuvre qualifiée, compétente et si possible, ancrée dans les territoires, etc. Donc, voilà un exemple. Ensuite, on a dans le Val-d'Oise une très belle filière dans la cosmétique, dans les systèmes électroniques embarqués, dans l'environnement. Dans l'environnement, il y a beaucoup de domaines. Dans le Val-d'Oise, on a des domaines où on est quand même très fort. C'est traitement de l'eau, traitement de l'air, traitement des déchets et dépollution des sols. Là, on a vraiment un écosystème. Mais après, on touche à l'environnement dans tous les domaines. Mais ces sujets, on est vraiment massifs. On a ensuite, évidemment, tout ce qui concerne toujours la sous-traitance automobile, même si ça s'est un peu appauvri avec les fermetures des grandes usines automobiles de proximité, avec des reconversions, et ainsi de suite. Donc on a comme ça des filières un peu historiques. Et puis, le schéma régional nous a donné comme feuille de route pour les années qui viennent, des nouvelles filières ou des filières en train de décoller un peu plus. Je les rappelle pour le Val-d'Oise, elles figurent noir sur blanc dans le schéma régional, et on les a pour le Val-d'Oise, et on les applique évidemment. La première filière où on nous demande de travailler, c'est l'hydrogène dans ses composantes. Alors c'est un sujet votre invité avec moi pourra vous en parler mieux que moi, mais c'est un sujet complexe. Mais en tous les cas, on a dans le Val-d'Oise, avec l'aéroport Charles de Gaulle, nécessité absolue de s'interroger sur quel peut être l'avenir de l'hydrogène dans une sphère aéronautique et aéroportuaire. ADP a lancé des consortiums avec Air Liquide, avec Engie et avec une trentaine ou une quarantaine d'entreprises.
Si l'hydrogène est vert, oui, c'est intelligent. Si c'est pas le cas, mais,
Monsieur Augustin de Romanet, qui était le précédent président d'ADP, ils ont un vrai plan stratégique. Ils ont réservé des espaces sur l'aéroport et avait même cité, ça a été publié dans la presse, il avait dit, on réfléchit même chez ADP, c'était le prédécesseur, je ne sais pas quelle est la vision de Monsieur Pascal là-dessus, je pense qu'elle va dans le même sens, en disant, on a bloqué sur l'aéroport des endroits pour fabriquer de l'hydrogène sur place, il ne suffit pas de l'amener par des camions ou de l'amener par des pipelines, ce qui est possible depuis la Normandie. Mais il avait dit, il faut à terme, si ça monte, s'il y a des avions à hydrogène, comme on peut l'imaginer, avec Airbus qui prépare un avion à hydrogène et d'autres, il faudra un jour fabriquer sur place. Bon, et il faudra fabriquer vert. Ça veut dire trouver des connexions
avec des
énergies vertes. Bon, tout ça est compliqué. On a quand même des choses qui se passent. On vient d'inaugurer, enfin, c'est en cours de se terminer sur la commune de Weimar à côté de l'aéroport, la plus grande centrale photovoltaïque d'Île-de-France. qui est dans le Val d'Oise, qui est en train de se terminer. Donc il se passe des choses,
oui.
pas suffisamment, il y a énormément à faire. Oui. Mais il avait dit, Monsieur de Romanet, il avait dit, il faut même réfléchir pour voir si on pourra pas installer un jour sur la plateforme aéroportuaire une micro centrale nucléaire, une tranche nucléaire. Non, mais il l'a dit. Voilà, je n'y connais rien. Mais...
Je crois savoir aussi que pour avoir déjà fait des émissions aussi avec des invités qui ont parlé d'hydrogène, il est difficilement transportable l'hydrogène.
C'est mieux de le faire sur place, l'utiliser sur place.
Ouais.
Mais c'est à la taille d'un aéroport comme Charles de Gaulle,
oui.
ça peut être rapidement des gros volumes.
En si développant, marche, pourquoi pas du photovoltaïque pour générer l'énergie pour l'hydrogène.
Ils ont commencé je vous dis, il y a déjà cette centrale de Weimar. Weimar, c'est à côté de l'aéroport. C'était une ancienne décharge qu'on ne pouvait pas réutiliser facilement. Mmh. Et ils ont couvert avec du photovoltaïque. Mmh. C'est un bel
exemple.
C'est
le mix énergétique qui va pouvoir améliorer tout ça. Il ne faut pas rester sur un seul type d'énergie. Et c'est ce mix énergétique qui va les bonnes solutions à l'avenir. Puis la technologie évolue aussi assez vite.
Mais ADP parlait même d'une réflexion. Il a ouvert ce sujet, quand même audacieux, en disant il faudra peut-être imaginer sur l'aéroport une centrale pour avoir de l'hydrogène vert. Parce que, encore une fois, de l'hydrogène bleu ou de l'hydrogène gris, ce n'est pas la solution.
Non.
Le deuxième sujet sur lequel on demande de travailler, c'est la mobilité aérienne avancée, c'est ces fameux aéronefs à propulsion électrique qui se développent dans le monde entier. Ce phénomène est un phénomène mondial. Ils sont déjà certifiés en Chine. En Chine, vous allez en Chine, dans plusieurs villes chinoises, une dizaine aujourd'hui, vous payez un ticket et vous montez dans un engin électrique, un eVTOL, à décollage vertical, atterrissage, comme un petit hélicoptère électrique. Et ça fonctionne. C'est Yang qui est le leader puisqu'ils ont obtenu les certifications pour transporter des passagers payants, et donc ça fonctionne, et ça marche. Et donc tous les pays du monde aujourd'hui travaillent sur ce sujet. À Osaka, il y a tout un tas d'expérimentations pendant l'Expo universelle sur ces sujets. Les Américains sont en train d'accélérer très très vite avec des marques comme Joby, Archer, qui préparent des engins volants pour ouvrir des lignes entre les aéroports, les centres-villes, mais aussi en Europe, avec des entreprises qui travaillent sur ces sujets. On s'est intéressé à ce sujet dans le Val-d'Oise parce que l'aéroport de Pontoise, qui dépend de groupe ADP, a été retenu en 2020 pour être un centre de test. Et nous avons eu comme ça beaucoup d'expérimentations sur cet aéroport. Et c'est l'endroit en Europe où on a installé le premier vertiport fonctionnel, opérationnel, il est toujours en place. ADP aujourd'hui a installé dans tous ses aérodromes, pas tous, presque, à Saint-Cyr-l'École, à Bourget, à Charles de Gaulle, des vertiports. Dans le Val d'Oise, nous avons trois vertiports opérationnels, celui du Bourget, celui de Charles de Gaulle et celui de Pontoise. Et donc, des tests grandeur nature sont menés pour voir comment on pourra faire fonctionner et faire cette connectivité. C'est pas comme un hélicoptère, parce qu'il faut aussi prévoir la connectivité électrique, prévoir les système d'évitement, ça vole à 300-400 mètres d'altitude, et on travaille, on a des rendez-vous actuellement avec le patron des pompiers, avec le SDIS, avec le SAMU, etc., sur ces sujets, parce que c'est aussi des engins qui vont permettre de transporter rapidement sur un accident un médecin du SAMU. Ça va être utilisé pour aller dans le centre de Paris d'un hôpital à l'autre, pour transporter des poches de sang pour des transfusions. C'est extrêmement important pour transporter des organes pour des transplantations. C'est également extrêmement utile pour les pompiers, pour surveiller un accident ou un incendie, etc., etc., etc. Mmh. Donc, il y a en réalité énormément de cas d'usage. Et on a décidé, nous, modestement, dans le Val d'Oise, d'accompagner cette filière d'abord au niveau technologique pour inciter les sous-traitants aéronautiques à commencer à penser à la fabrication, parce qu'il faudra bien les fabriquer, de cette nouvelle génération d'engins à propulsion électrique. Et deuxièmement, on a travaillé pour préparer avec les élus locaux la sensibilisation des maires au fait que la réglementation européenne existe. Elle a été adoptée en 2023. C'est ce qu'on appelle la low altitude economy, l'économie de basse altitude. C'est-à-dire qu'on est dans la tranche entre 0 mètre et 300-400 mètres. Cette tranche est placée sous la responsabilité des élus locaux. Elle ne dépend pas de la DGAC. Et donc les élus se retrouvent à avoir des responsabilités pour tout ce qui va circuler dans cette basse altitude.
En plus de toutes celles qu'ils ont déjà.
Vous avez tout à fait raison. Alors, ils n'ont pas, pour 90%, ils n'ont pas la compétence technique pour gérer ça, parce qu'il faut des mini-tours de contrôle virtuels. Mm-hmm. Ça se fera sur des ordinateurs. Mais il va falloir gérer les drones, tous ces systèmes de drones qui amènent des paquets, des trucs. Il faut le gérer. Ça va être la basse altitude. C'est réglementé par l'EASA, qui est l'Agence européenne de sécurité aérienne, qui a adopté des réglementations européennes qui s'appliquent dès aujourd'hui, qui donnent des responsabilités aux maires. Et ce qui est prévu, c'est que les maires vont devoir, s'ils n'ont pas la capacité à mettre en place leur propre tour de contrôle virtuel pour délivrer les autorisations et définir les routes, les endroits à survoler, ceux qu'on ne peut pas survoler, les écoles, les hôpitaux, etc. C'est les maires qui doivent réglementer. C'est un pouvoir de police des maires.
Oui, oui, oui.
Ils sont un peu étonnés quand on leur en parle.
On a commencé à en parler.
Mais alors, la réglementation prévoit qu'ils pourront s'appuyer sur ce qu'on appelle des U-Space Providers, c'est-à-dire des sociétés privées qui se rémunéreront auprès des opérateurs qui feront voler. Il y aura une taxation de tout ce qui vole et ça servira à payer une sorte de tour de contrôle mutualisé. Et nous, on est en train de réfléchir à ce qu'on appelle un master plan à l'échelle du Val d'Oise. C'est très expérimental, on est très en avance, y compris à l'échelon européen sur ces sujets. On a commencé un travail avec des spécialistes pour essayer de cartographier à l'échelle du Val d'Oise quelles pourraient être les routes autorisées, les routes interdites, où pourraient se situer les vertiports, les drones ports pour les drones qui transportent du fret, les vertiports pour ceux qui transportent des personnes. Il faut commencer dans les plans locaux d'urbanisme, dans les plans d'aménagement. Certes, ça va pas se faire comme ça.
Si on peut éviter de passer juste au-dessus de ma maison à Argenteuil, ça m'arrangerait.
Voilà, donc on est engagé dans cette dynamique. Et le Val d'Oise au niveau international est bien repéré. On est appelé dans des colloques dans le monde. J'étais en Italie. On est appelé dans beaucoup. On intervient beaucoup. J'ai fait ça au CES à Las Vegas. J'ai fait ça à Helsinki. Le Val d'Oise est repéré comme un territoire qui est plutôt en avance sur les réflexions et sur les stratégies dans ce sujet. C'est le deuxième sujet. Les deux derniers sujets sur lesquels on travaille, c'est dans le RDEII, le fameux schéma directeur, c'est l'agriculture et l'alimentation du futur. Voilà un sujet écologique. On est dans une grande région où 95% absolument, mais on a des entreprises. 95% de ce qu'on consomme dans cette région n'est pas produit sur place. Et donc, les circuits courts, ça veut dire quelque chose. Et c'est toute l'économie qui se développe dans le Val d'Oise autour du fameux projet Agoralim, du marché de Rungis bis qui va s'implanter progressivement à Goussainville. Je rappelle 1,3 milliard d'euros d'investissement, 4-5 000 emplois pour démarrer. C'est énorme pour le Val d'Oise. Donc ces sujets de la nouvelle agriculture et de la nouvelle alimentation du futur à base d'insectes, de protéines animales ou à base de substituts végétaux à la viande, etc. C'est pas de la rigolade puisque nous avons déjà, nous, 5 entreprises dans le monde qui sont en train de négocier avec nous des possibilités d'implantation dans ces technologies, le maraîchage automatisé avec des robots, les substituts végétaux à la viande, les protéines à base d'insectes, etc. C'est une réalité. Et le dernier sujet, je termine, c'est la sécurité, la sûreté, la maîtrise des risques, toutes les technologies autour de la sécurité qui continuent à être une priorité pour le territoire.
On va y revenir, Jean-François, je vous promets que l'émission n'est pas terminée. Moi, je voudrais, alors, 2 choses. J'ai laissé passer, quand vous parliez de tourisme tout à l'heure, juste une petite parenthèse. Parmi les endroits aussi magnifiques dans le Val d'Oise, il y a Saint-Clair-sur-Epte. Moi, j'ai eu l'occasion d'assister à l'inauguration de la restauration de leur église. Et j'ai appris hier par une des conseillers municipales que ils avaient été sélectionnés grâce à cette restauration par le loto du patrimoine.
Absolument, ça a été annoncé il y a quelques jours.
Ils sont très fiers et voilà. Et donc, j'invite vraiment.
Saint-Clair-sur-Epte, c'est dans l'histoire de France, c'est un lieu emblématique.
Oui,
parce que ça a été quand même le lieu d'affrontement entre la Normandie avec l'époque des Normands.
Les Vikings, oui.
Et
donc, j'invite vraiment nos auditrices et auditeurs à y aller. Je voudrais aussi revenir sur ce que vous disiez à propos des donneurs d'ordre. Les donneurs d'ordre, en fait, ça date pas d'aujourd'hui, ce que vous nous dites, Jean-François. Est-ce que vous pensez pas que c'est franco-français, cette histoire de donneur d'ordre?
Je sais pas. Je sais que quand vous regardez les Américains, par exemple, il y a des pressions dans chaque État américain. On travaille beaucoup avec des collègues d'agences de développement économique aux États-Unis. Bien sûr, on échange, on partage. Ils ont mis en place, le gouvernement américain, le premier, a mis en place des sortes de small business acts qui imposent dans les commandes publiques des réglementations qui imposent la nécessité de proposer des justes prix à des petites entreprises, à des moyennes entreprises, pour faire le lien. Mais on entend ça un peu partout, mais je pense que nous, en France, on a un vrai sujet sur ce thème-là. C'est certain.
Voyons, on a... malgré tout.
On a peut-être des progrès à faire, y compris pour inciter les gros donneurs d'ordre à intégrer des véritables politiques de développement de RSE, tout simplement, oui. Une forme de RSE, avec une prise aussi en compte du fait que, c'est ce que disait Benoît tout à l'heure, il n'y a pas que des multinationales qui doivent être capables de répondre.
Non, absolument.
Et on a des compétences dans des start-up ou des jeunes entreprises ou des entreprises de taille petite et moyenne. Il n'y a aucune raison qu'on les écarte a priori sur un critère de taille si elles ont la compétence. C'est scandaleux.
Oui.
Donc il faut, quand on n'arrive pas à le faire par la conviction, il faut malheureusement parfois le faire un peu par la réglementation.
Merci Jean-François Benoît. C'est l'heure d'une nouvelle pause bien méritée. À tout de suite pour la suite de l'émission.
It's raining in the park, but meantime, sound of the river, you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Well, now you step inside, but you don't see too many faces coming in out of the rain. They hear the jazz go down. Competition in other places, but the horns, they blowing that sound way on down south. Way on down town. You check out Guitar George, he knows all the chords. Mine is strictly rhythm, he doesn't want to make it cry or sing. If any no guitar is all he can't afford, when he gets up under the lights to play his thing. And Harry doesn't mind if he doesn't make the scene. He's got a daytime job, he's doing alright. He can play the honky-tonk like anything, saving it up Friday night with the Sultans, with the Sultans of Swing. Yeah. And a crowd of young boys there fooling around in the corner, best brown baggies in their platform soul. They don't give a damn about any trumpet playing band. It ain't what they call rock and roll. And the Sultans, yeah, the Sultans, they play Creole. Thank you.
then the man is there. That's right, up to the microphone. Says it lasts just as the time bell rings. Good night, now it's time to go home. Then he makes it fast with one more thing. We are the Sultans, we are the Sultans of Swing.
Vous êtes bien sur IDFM Radio.
Après Sultans of the Swing par Dire Straits, c'est l'économie en direct, toujours en temps réel sur IDFM Radio, le rendez-vous de l'économie locale du Val d'Oise, avec à mes côtés aujourd'hui Jean-François Benon, directeur général du CEVO, l'agence d'attractivité du Val d'Oise, et Benoît Géhin, fondateur et dirigeant de Phaseo, bureau d'études spécialisé en électricité et énergie renouvelable. Benoît, peut-être quelques mots pour vous présenter.
Pour me présenter rapidement, je suis donc Benoît Géhin. J'ai créé le bureau d'études Phaseo maintenant depuis plus de 20 ans, avec une belle petite histoire. Actuellement, on vient de créer une nouvelle agence à Nantes.
Oui.
Bon, j'avais une agence à Londres il y a encore 2-3 ans, que j'ai fermée suite au Brexit.
Oui,
je trouvais que c'était un peu compliqué, mais ça ne m'a pas empêché d'avoir quand même des affaires intéressantes. Donc c'est du passé, c'était une belle expérience, puisqu'on a fait beaucoup d'international, on en parlait il y a quelques temps. J'ai quasiment arrêté l'international au moment du Covid et autres, parce que pour les paiements et autres, et moi je veux pas mettre mon entreprise en difficulté. Donc
crois me souvenir que vous aviez des marchés avec l'Arabie Saoudite.
Oui. La Russie aussi.
Oui.
Avec différents pays, le Maroc aussi. On a fait des centrales solaires sur place. Et en Afrique aussi, au Togo, différentes missions intéressantes. Mais mon sujet, c'était les paiements, les retards de paiement et devoir discuter avec Pierre, Paul, Jacques et puis perdre du temps. Et c'était plus du tout mon envie. Quand on dirige une entreprise, on a envie de faire ce que l'on aime. C'est comme pour mes émissions radio. Si je le fais, en l'occurrence bénévolement, c'est parce que la musique me plaît. C'est aussi une passion qui fait que on est ce que l'on est par rapport à aussi nos passions, nos envies. Et mon entreprise, si c'était pour passer du temps à discuter, rediscuter les prix et autres, c'était invivable.
Oui.
Donc j'ai fermé l'agence à Londres. Et on a créé une antenne à Nantes. Dans l'esprit d'en créer une autre. À Nantes, ça s'appelle Phaseo Ouest. Et créer une autre antenne dans l'Est, puisque moi je viens de l'Est, je suis vosgien. Dans l'Est, qui va s'appeler Phaseo Est.
Pourquoi Nantes?
Pourquoi Nantes? Tout simplement parce que j'ai mon fils qui est dans l'entreprise.
D'accord.
Et il était aux Pays-Bas, donc il venait régulièrement à Argenteuil au siège et il travaillait aussi du Pays-Bas. On a essayé de développer aussi dans le Nord, mais il y a beaucoup d'entreprises. Ils ont quand même l'intelligence du solaire, entre autres. Quand on dit qu'en France, on n'a pas assez de soleil, eux, c'est pire. Et il y a 4 fois plus de centrales. Donc, trouver l'erreur. Et comme il se déplaçait pour suivre sa compagne qui est dans la recherche à Nantes, c'était un peu l'occasion. Je voulais le faire depuis plusieurs années, créer une antenne. Enfin, il y a 10 ans, je voulais en créer beaucoup plus que ça, mais j'ai bien fait d'y aller tranquillement.
Oui, d'y aller tranquille.
Voilà, tranquille. Ça fait que l'entreprise, elle existe, elle est de plus en plus connue, et puis c'est du plaisir de travailler en étant ambitieux, mais raisonnablement.
Alors vous, vous avez mis plus de 20 ans, comme vous le disiez, d'expérience au service de solutions innovantes. Le solaire photovoltaïque dont vous avez parlé, les bornes de recharge pour véhicules électriques, et puis les réseaux intelligents. Alors expliquez-nous.
Ben, les réseaux intelligents, c'est l'interconnexion des réseaux, ce qu'on va utiliser en sol, parce que maintenant, c'est pour faire une petite parenthèse pour ceux qui connaissent le photovoltaïque. C'était du non-sens. Il y a 10 ans, on a eu un moratoire sur le photovoltaïque. Beaucoup d'entreprises sont tombées, mortes, qui n'était pas mon cas puisque j'avais aussi la parenthèse électricité, d'autres compétences. Mais c'est parce que c'était développé sans forcément d'intelligence. On générait de l'énergie sur notre bâtiment ou autre pour le réinjecter dans le réseau. Mais le but, c'était de l'injecter, le récupérer soi-même. Donc, on est maintenant tous dans l'autoconsommation et on revend le surplus ou on le récupère pour charger des batteries ou pour charger des équipements ou autres ou charger des véhicules, pourquoi pas. Et maintenant, et dans quelques années, les véhicules qu'on aura chargés peut-être dans la journée vont pouvoir nous permettre d'avoir de l'énergie complémentaire dans nos bâtiments par nos véhicules. Oui. Donc toute cette réflexion intelligente des réseaux, ça fait partie de ça, ces réseaux dits intelligents. Je suis d'ailleurs un membre de différentes organisations professionnelles et techniques, ce qui fait que si on est là au bout de 20 ans, on en parlait juste avant l'émission, comme pour la radio, si on ne suit pas les nouvelles technologies, qu'on ne reste que dans ce que l'on sait faire, on est mort.
On disparaît.
On est mort. Tout ce que l'on fait, on fera dans 6 mois, voire 1 an, ça sera peut-être plus du tout la même technologie que l'on fait aujourd'hui. Je suis membre de différentes organisations, dont le CINOV, qui est une fédération professionnelle, et je suis administrateur, et on fait des réunions, des réflexions, ça s'appelle... Donc le CINOV, Fédération CINOV, c'est les esprits indépendants ont leur collectif, mais pour résumer, c'est la Chambre des ingénieurs conseil de France.
D'accord.
Et je suis membre de différentes organisations, dont le SBA, qui est Smart Building Alliance. Ça fait que tout ce qui est technologie faisable techniquement, il faut pouvoir le faire adopter aux uns et aux autres. C'est comme ce qu'évoquait M. Benon avec... j'allais dire, pour résumer, les drones où on peut intégrer du monde dedans, tout le monde ne va pas accepter que le drone passe au-dessus de sa maison et autres.
Évidemment.
Mais il y a des réglementations, il faut vivre avec son temps, ça va se faire, ça devait se faire pour les JO, ça s'est pas fait. Mais il y a maintenant des bâtiments que l'on conçoit, on prévoit un élément sur le bâtiment pour pouvoir recevoir ou un hélico ou un véhicule individuel pour des raisons. Bon là, pour le moment, je pense que les gens, ils sont prêts à accepter ce genre de véhicule pour des urgences, des poches de sang, des mais pour le plaisir, pas forcément, c'est pas évident. Ce que je veux dire par là, c'est que les bureaux d'études comme les nôtres, on est obligé d'être toujours pas à fleur de peau, mais être au courant de ce qui va se faire dans le futur. Une technologie que l'on a fait qu'on a commencé il y a 5-6 ans, qui est le BIM, c'est le travail
et la conception. Alors je veux que vous nous en parliez de ça, du BIM.
Et le BIM, en fait, on fait de la conception, comme pour résumer, avant, quand on faisait des plans sur des calques, pour ceux qui ont connu les calques, c'était des rotrings, on mettait plusieurs calques les uns derrière les autres pour faire des couches, pour voir un bâtiment. Après, il y a eu un logiciel qui s'appelait AutoCAD, on faisait les mêmes plans en 2D, voire de temps en temps en 3D avec Katia, ce genre de logiciel. Maintenant, il y a un logiciel, différents types de logiciels, mais c'est pour faire du BIM. C'est pour prendre toutes les données techniques d'un bâtiment dans la construction, dans la déconstruction, de la récupération des matériaux, pour que on soit vertueux pour l'utilisation des matériaux. Ça peut être le béton, ça peut être les fenêtres, ça peut être le bois, ça peut être le matériel électrique, le cuivre et autres. Et en fait, on construit, l'ingénieur qui va faire le bâtiment, il construit le bâtiment sur son ordinateur. Ça fait que ça va être en 3D, on pourra même se balader à l'intérieur. Quand on voit un client, ça y est, maintenant c'est une histoire ancienne, on travaille tous en BIM.
BIM, des bureaux d'études. Ça signifie quoi BIM?
BIM, c'est Building Intelligent, je sais plus exactement
Building Intelligent Management, sans doute.
Ouais, voilà, peut-être, c'est ça. Ça fait qu'on a toutes les données, historiques du bâtiment.
À portée de main.
Parce que dans un bâtiment, c'est pas ce qui coûte plus cher, c'est pas la construction du bâtiment, c'est la durée de vie du bâtiment pendant 20 ans. Donc les consommations, le matériel, les calculs, les données, le changement du papier peint, et aussi comme le solaire photovoltaïque, c'est pas forcément les panneaux solaires qui vont pas durer dans le temps, parce que ça dure 20 ans, 30 ans, il est moins fort, mais il faut changer les onduleurs. Et ça, c'est selon le type d'onduleur, il va falloir que, quand on fait nos études, on sait que, à telle date, à tel moment, il va falloir commencer à penser à changer telle donnée, telle autre. Oui. Donc, toute cette interconnexion de réseau, Bah, c'est un peu d'intelligence qu'on intègre dans nos réflexions pour aussi gagner du temps en énergie et puis faire aussi des économies et puis pour la planète, même si c'est le sujet des données, c'est un autre sujet parce que si c'est pour développer plein de data centers.
Oui, c'est encore.
Voilà, donc il faut trouver l'équilibre.
C'est ça. À propos du BIM, donc je vois aussi que c'est une façon d'avoir de l'énergie électrique pour s'abstenir du gaz ou du.
Le BIM, non. Le BIM, c'est vraiment de la conception de dessin, de la conception.
D'accord.
Enfin, de dessin, c'est réducteur de dire ça. De la conception d'un bâtiment, ça fait que normalement, si on fait une bonne étude en tant que concepteur, en bureau d'études comme nous, on ne devrait avoir aucun travaux supplémentaires. Pas d'ardoise en plus, à moins une nouvelle commande, des changements. Mais souvent, ce qui s'est passé, ben, on a oublié que dans le faux plafond, on a prévu 1 mètre et puis il fallait 1,50 mètre, donc faut descendre le faux plafond, ce genre de données. Ben, avec le BIM, non. Tout est dessiné, tout est représenté à l'échelle 1-1, donc on n'a pas normalement de surprise.
Et c'est aussi l'occasion, alors vous me reprenez hein, si je me trompe, mais c'est une façon à travers ce que vous nous avez dit que c'était de réduire l'empreinte carbone.
Bah, réduire l'empreinte carbone parce qu'on fait le juste dimensionnement.
Oui, c'est ça.
Ça fait qu'un chemin de câble, s'il va prendre 10 câbles, on va pas faire un chemin de câble qui fait 50 cm de large, puisque tout sera dimensionné et représenté sur le plan. Et si jamais il y a une gaine de clim qui est volumineuse et puis qu'on n'a pas de place, on va essayer de trouver une solution. Ça fait qu'on va pas, lors du chantier, faire des travaux supplémentaires, rester plus longtemps sur chantier parce que la synthèse n'a pas été forcément complètement bien étudiée. Ça fait que dès qu'on consulte les entreprises, tout est bien ficelé, bien organisé.
Voilà.
LDPGF, qui est les quantités prévues pour l'entreprise.
Il n'y a pas de mauvaise surprise.
Il n'y a pas de mauvaise surprise.
Et donc dans votre activité, c'est un peu une révolution que vous-même vous utilisiez cette modélisation.
Totalement, c'est une révolution, surtout pour les petites structures comme la nôtre, les petits bureaux d'études. On va dire les grands groupes.
Mais c'est une valeur ajoutée, forcément.
Bah, bien sûr, c'est une valeur ajoutée. C'est pour ça que même certaines grosses entreprises nous sollicitent pour les aider à passer le pli. Donc, on nous sollicite moins maintenant parce que tout le monde l'utilise, mais il nous arrive encore pour des gares, pour des gros projets en cours, qu'on intervienne pour faire ces études BIM. Autant pour la conception que pour certaines entreprises qui n'ont pas les compétences et on va les aider à faire leur étude pour leur installation électrique. Électrique ou solaire ou plus, puisqu'il nous arrive de faire du tout fluide.
Oui, je comprends. Benoît, vous êtes avec nous ce matin, bien sûr, pour nous parler de votre entreprise. Professionnellement, quels seraient vos besoins ?
Bah, professionnellement, moi, je suis toujours ouvert à des ingénieurs qui se proposent de venir nous voir avec une fluidité d'esprit, comment dire ça, la fluidité d'esprit, quand on sait faire quelque chose, qu'on l'a bien appris en tant qu'ingénieur, on va pas forcément faire le travail qui correspond à notre formation, il va falloir l'adapter et le changer. Parce que la technologie change, les ingénieurs, faut qu'ils soient un petit peu ingénieux, ce qu'ils ont appris, ça va pas forcément correspondre à ce qu'ils vont faire dans un an, dans 2 ans. Mmh. Et c'est cette souplesse d'esprit que tout le monde n'a pas forcément, elle est obligatoire. Sinon, on ne peut pas faire ce genre de choses. Et c'est ça qui fait que des bureaux d'études comme le nôtre, on a de l'activité quand même. C'est parce que nos clients nous savent souples.
Oui, et c'est ça, flexibles.
Flexibles. Oui. Et on s'adapte. Si une technologie évolue, eh ben on va prendre les éléments et les infos qu'il faut pour prendre le pli.
Ah oui, mais c'est toute la force d'entreprise comme la vôtre, enfin de la taille de la vôtre.
Exactement. Juste, j'en profite en même temps. Donc, je suis membre de différentes organisations. Donc, j'invite les gens à aller aussi sur Internet, aller voir phaseo.fr et voir un peu notre activité. Et on travaille avec donc différentes associations ou fédérations, dont le Synov. Et on a une journée qui s'appelle les Ingéos. Le 23 octobre, ça se passe dans Paris. Et là, on évoque nos métiers avec des donneurs d'ordre, avec des bureaux d'études, avec des confrères, dans un site sympa, avec des philosophes, avec aussi parce qu'on n'a pas que le travail. Il y a aussi une réflexion de durée. Et le thème de cette journée, c'est garder le cap. Donc on va même avoir je me rappelle plus lequel navigateur, mais il y a un navigateur qui sera présent, parce que donc moi je suis administrateur de Synov Ingénierie et on essaye de donner du sens à nos métiers. Ça fait que c'est sûr que Travailler dans une radio, c'est fun, c'est sympa, mais pour pouvoir faire venir des ou de la jeunesse ou des choses et puis prendre du plaisir, il faut qu'il y ait un lien aussi un peu différent
ou des convictions
et le fait de
des militants, on a aussi des...
voilà le côté aussi de s'impliquer, c'est comme dans les associations, on manque de j'allais dire de bénévoles, mais c'est plutôt de militants, de passionnés. C'est comme là je parle beaucoup, j'allais dire monsieur Benon ne fait que de parler, mais moi je parle aussi pas mal. Mais en fait
j'adore,
parce que
d'avoir
parce
des gens passionnés.
Je pense qu'on aime ce que l'on fait, que ce soit ou dans
ça,
le travail
c'est...
ou
je crois
en dehors.
Que ça fait toute la différence aussi.
Et là pour l'histoire des ingéos, c'est aussi un moment pour le partager et c'est des moments vraiment conviviaux, donc vraiment je vous invite à...
Quelle date Benoît ?
C'est le 23 octobre. Donc il faut aller sur... taper sur Internet les ingéos, c'est le Cineuve qui organise. Bon, bien sûr qu'on privilégie les bureaux d'études mais c'est une journée vraiment, vraiment intéressante. Et puis même pour certains étudiants qui sont dans le métier, se dire mais est-ce que ça a du sens de devenir ingénieur énergie renouvelable ou ingénieur électricité? Franchement, c'est nul. Enfin, il y a pas mieux comme métier. Ben, si, c'est super bien comme métier. Simplement, il faut trouver un intérêt. Le fait, comme on a l'IA, tout le monde se plaint de l'IA, mais tout le monde l'utilise. C'est un outil extraordinaire.
Formidable.
Il faut faire attention.
Il faut savoir
ça nous coupe notre créativité. Il faut trouver l'équilibre qui va bien. Mais si on peut faire quelque chose en 10 minutes quand il nous fallait 4 heures.
Absolument. vous dites que votre expertise photovoltaïque n'est pas... Alors oui, juste je reviens, les ingéos, c'est à quel endroit?
Je sais plus exactement l'endroit, mais c'est dans Paris.
On va le trouver.
Voilà.
Ok. Votre expertise...
Je devrais le savoir parce que je fais partie du pilotage de la journée, mais bon.
Photovoltaïque n'est pas assez exploité dans la région Île-de-France.
Totalement.
Ouais.
Pas exploité.
Ouais.
On a un problème de réseau et on va en entendre parler. Il va falloir refaire tous les réseaux dans toute la France. Parce que c'est des lignes qui datent des années, j'allais dire 20 presque.
Ah oui.
Parce qu'il y a plein d'installations, bon, entre les équipements. Donc je crois qu'il y a même actuellement une campagne qui existe par rapport, pour solliciter un peu les uns les autres, comment déployer tous les réseaux électriques, hein, je parle. Et donc si chaque bâtiment avait sa propre récupération d'énergie. Déjà, pour autoconsommer, on n'a pas besoin du réseau à l'extérieur. Enfin,
oui,
vous trouvez un équilibre.
Ce que vous disiez tout à l'heure, oui.
Et si on utilisait tous les toits partout, ben, on pourrait avoir de l'énergie suffisamment et pas avoir forcément besoin d'une centrale, d'un endroit ou d'un autre. C'est un équilibre qu'il faut reconstruire et revoir. Et donc, le photovoltaïque, on n'en a pas assez en France.
Donc vous êtes en train de nous dire qu'on a intérêt, même les particuliers, ou ça concerne que les industries, enfin
les particuliers aussi, ceux qui sont motivés. Je dis ça, j'ai même pas de panneaux solaires sur ma maison,
mais
c'est comme on dit, le cordonnier le plus mal chaussé.
Mais à terme, on a intérêt à s'équiper de photovoltaïques.
Oui, parce que déjà pour l'intérêt commun, parce que c'est comme plein de petites piles qui sont un peu partout dans toute une ville, dans un territoire, et c'est quand même. Je disais dans le Val-d'Oise, j'ai fait que 3 études. J'ai fait bénéficier via mon bureau d'études, puisqu'on est qualifié, il faut aussi des qualifications, qualifications OPQ-IBI, assez cadrées, assez difficiles à obtenir, et grâce à ces qualifications, les clients peuvent avoir des aides de l'État. Et là, ils ont seulement trois dans le Val-d'Oise. Parce que je suis pas assez communicant. Je sais que voilà, je suis plus
aussi
un technicien qu'un commercial.
Vous tournez vers le CEVO pour vous.
Non, c'est un sujet qui monte. Ceci dit, il y a aussi des idées reçues. Il faut bien reconnaître, il y a des gens pas très honnêtes qui dans les installateurs de ces.
Voilà.
C'est comme dans l'isolation.
Il y a eu malheureusement des mauvaises expériences et on sait bien comment tout ça fonctionne. Quelqu'un qui est satisfait, il le dit pas forcément à tous ses amis. Quelqu'un qui a une mauvaise expérience, il le dit.
Oui.
Et ça peut refroidir des particuliers qui ont été chaudés par des gens pas honnêtes dans ces métiers-là. Il y a aussi le fait qu'on est quand même en Île-de-France et que dans les idées reçues, c'est peut-être des idées reçues, il y a des gens qui vous disent oui, mais ça c'est bon pour le sud de la France parce qu'il y a du soleil, etc.
Totalement
ici,
faux.
Le rendement n'est pas... c'est les idées reçues qui circulent. Il y a tout un tas de barrières mentales et c'est là où la compétence technique de spécialiste est très très importante. Je pense que les collectivités territoriales qui ont des supports de communication auprès des habitants doivent beaucoup aussi s'emparer de ça pour dépasser ces idées reçues, parce que là on est dans l'intérêt général quand même, hein, c'est l'environnement, c'est le développement durable, et je pense qu'il y a tout un travail collectif. Il y a des choses qui sont faites, hein, il y a l'ADEME, il y a tout un tas d'organismes qui font de la promotion, mais peut-être pas assez au niveau du terrain.
J'ai un sujet, je vais l'évoquer rapidement. On a développé un principe pour que chacun puisse avoir sa propre étude sur son bâtiment, même s'il y en a un peu partout qui existe. Nous, au moins, on concrétise. Et si la personne est intéressée, bon, on peut faire son étude. Nous, on n'est que maître d'œuvre. On fait de la conception. Après, on sollicite les bonnes entreprises et la bonne entreprise qui va répondre. Mais on a un cadre qui existe et ça s'appelle, si les gens veulent aller voir sur place, e-producteur militant. Et c'est un site où on soit particulier, professionnel, propriétaire, pas propriétaire. On donne différents éléments qui sont donnés et nous, on peut faire une étude rapide, gratuite. Et voilà ce qu'il va gagner en temps d'année et autres. Et la personne prend sa décision. Il nous sollicite en tant que maître d'œuvre, comme ils veulent, ou quelqu'un d'autre. Donc, nous, on a intégré cette réflexion. On avait voulu d'ailleurs participer au concours pour le salon Effervescence. Bon. Ça n'a pas été compris parce que c'était peut-être un peu complexe.
Oui, c'était plus...
Mais en tout cas, le sujet fonctionne et il faudrait peut-être le faire développer.
Oui,
les gens en font ce qu'ils veulent
exploiter,
après.
Oui.
Et je pense qu'il faut rassurer. Il y a un vrai sujet.
Il faut rassurer,
expliquer et accompagner parce que on est dans une jungle, comme dans toutes les thématiques technologiques émergentes. Et il faut bien le reconnaître, il y a aussi des gens malhonnêtes.
Complètement, voilà.
Et ça, c'est tétanisant.
Ça génère toute
une... On a toujours peur de se faire avoir, d'où l'importance d'avoir un accompagnement de techniciens qui connaissent et qui peuvent accompagner, y compris même dans la sélection d'un opérateur, d'installateur, etc.
Exactement.
Parce que c'est des vrais sujets, quand même. Moi, ce que j'observe dans nos domaines, nous, avec les grands établissements, il n'y a plus aujourd'hui... je dis ça avec prudence, mais il n'y a quasiment plus aujourd'hui un bâtiment logistique, un bâtiment industriel de taille importante qui n'intègre pas, au moins sur les toits, l'arrivée du photovoltaïque.
Enfin, parce que maintenant, les réglementations l'imposent.
Mais, c'est
comme pour les
parkings. Ça, c'est quand même très
positif.
C'est quand même très
selon les
ombrières se développent partout, etc. Donc, je trouve qu'il y a eu
non,
quand
mais
même...
Non, c'est très bien, on va dans le bon sens.
Il y a des avancées.
On va dans le bon sens.
Il y a des avancées.
Écoutez, je merci pour tout ce témoignage. Je propose qu'on fasse à nouveau une pause avec le duo Slimane et Claudio Capeo chez toi et on revient juste après.
Je chantais mes peines sur le banc de la cité. Je rêvais de Paris et d'en faire mon métier. Et quand venait l'été, je traversais la mer. Faut savoir d'où tu viens, mon fils, comme disait mon père. Je chantais dans ma chambre, j'avais fermé la porte. Je criais mes démons, que le diable les emporte. Et quand venait l'été, je traversais la mer. Un diamant in machina, comme le disait ma mère. Comment c'est chez toi, mon frère? Pas si différent, mon frère. Je t'aime même si j'en ai pas l'air. Mais c'est mieux quand t'es là, beaucoup mieux quand t'es là, mon frère. Comment c'est chez toi, mon frère? Pas si différent, mon frère. Je t'aime même si j'en ai pas l'air. Mais c'est mieux quand t'es là, beaucoup mieux quand t'es là, mon frère. Les boulevards effrayants, les pavés de Clichy, le petit menuisier accompagné de ses amis. Et si c'était là-bas que je crierais mes démons, qu'on se retrouvera tous les deux à faire les cons. C'était la dernière chance, un dernier rendez-vous. Les rêves c'est fatigant, mais moi je tenais le coup. Et si c'était là-bas qu'on entendait mes peines? Et si c'était comme ça que la vie est plus belle? Comment c'est chez toi, mon frère? Pas si différent, mon frère. Je t'aime même si j'en ai pas l'air. Mais c'est mieux quand t'es là, beaucoup mieux quand t'es là, mon frère. Comment c'est chez toi, mon frère? Pas si différent, mon frère. Je t'aime même si
c'est pas vrai, mais je t'aime quand même.
Tout nous séparera, ils diront que c'est pas vrai, mais je t'aime.
Comment c'est chez toi, mon frère?
Pas si différent, mon frère.
Je t'aime même si j'en ai pas l'air.
Mais c'est mieux quand t'es là, beaucoup mieux quand t'es là, mon frère.
Comment c'est chez toi, mon frère? Pas si différent, mon frère. Je t'aime même si j'en ai pas l'air. Mais c'est mieux quand t'es là, beaucoup mieux quand t'es là, mon frère.
IDFM Radio, 98 FM.
C'est toujours l'économie en direct sur IDFM Radio et ce matin focus sur le CEVO et FAESO avec FAESO pardon avec à mes côtés Jean-François Benon, donc directeur général du CEVO, et Benoît Géhin, fondateur et dirigeant de FAESO. Ben là je vous donne la parole un petit peu à tous les deux parce que je crois avoir compris Jean-François Benon que vous avez découvert un petit peu ce qu'a dit Benoît par rapport à la aux besoins que de enfin ce que vous nous avez dit,
oui,
Benoît, là où il va falloir changer
la tout relation ça. Avec on a avec FAESO, c'est une entreprise, on se connaît depuis longtemps avec,
oui,
Benoît,
et au Vietnam,
oui, on a même
une ingénieure de l'entreprise,
on a même effectivement accompagné l'entreprise dans une opération de promotion et de prospection dans une province vietnamienne où nous avions des relations étroites effectivement il y a quelques années. Donc on connaît bien tout ce travail d'innovation qui a été fait par cette belle entreprise, y compris dans des pays complexe, hein, je ne sais pas si c'était pas à Abu Dhabi ou à,
bon, ben,
à Dubaï, oui, avec Kretinsky, etc. J'ai des souvenirs très précis de choses incroyables qui étaient à l'époque, parce qu'on a parlé de 20 ans en arrière, extrêmement innovantes, et on voit comment FAESO est resté à la pointe de cette curiosité, dans cette capacité à faire de la prospective et d'identifier effectivement les ruptures technologiques, parce que c'est des domaines qui évoluent très vite, effectivement. Donc on est sensible à ce que fait FAESO depuis des années, et moi je comprends bien ce message. On l'entend malheureusement souvent auprès des TPE, PME, des start-up. On a un vrai sujet dans notre pays sur la capacité à faire prendre conscience à des gros donneurs d'ordre, publics et privés. Mmh. On parlait du groupe Aéroport de Paris, mais on a de grandes entreprises dans ce département et on a des grosses collectivités territoriales. Et je disais qu'il faut peut-être aussi y mettre en place, dans un premier temps, il faut éviter tout ce qui est coercitif. On n'est pas, nous, des fervents de la coercition, mm-hmm, mais et un travail de sensibilisation des acheteurs aussi. On a aujourd'hui des formations universitaires de haut niveau, on a des formations d'ingénieurs, on a des grandes écoles d'ingénieurs, y compris dans le thermique. Les sujets qu'aborde Benoît avec l'ECAM PMI, qui est une très belle école d'ingénieurs à Cergy-Pontoise, qui travaille et qui forme des ingénieurs sur ces technologies. Nous, on essaye de discuter souvent avec eux. On les titille un peu parce qu'on parlait d'hydrogène tout à l'heure. Moi, je me rends compte qu'il y a, y compris dans ces grandes écoles d'ingénieurs, parfois une complexité à mettre en place les formations. C'est pas facile, hein, à leur décharge. Mmh, mmh. Mettre en place un nouveau diplôme, le faire certifier, le faire valider, oui, et avant, entre l'idée et la capacité à avoir une certification d'un diplôme d'ingénieur avec la commission du titre d'ingénieur, on a vécu, parce qu'on accompagne les établissements d'enseignement supérieur dans ces démarches. Je peux vous dire que c'est un parcours du combattant, hein. Et la commission du titre d'ingénieur, pour avoir assisté à quelques audits,
oui,
c'est pas des rigolos. C'est pas des rigolos, et je voudrais pas dire des choses méchantes, mais enfin, je trouve que même dans un certain nombre de cas, c'est plutôt au lieu de d'accompagner l'enthousiasme,
oui, oui,
de dirigeants d'une école qui se disent il faut qu'on y aille, j'ai assisté à des auditions où on avait des auditeurs qui étaient un peu de l'ancien temps et qui freinaient, qui empêchaient et qui ont refusé de certifier des nouvelles formations d'ingénieurs sous prétexte que le marché n'était pas encore mature, qu'il n'y avait pas la garantie d'assez de débouchés formés. Enfin, je veux dire, c'est le serpent qui se mord la queue. Donc, je veux pas être trop.
Et dans ce cas-là, vous pouvez intervenir.
Bah, on essaye, oui, on nous fait venir pour ça. Nous, oui, les écoles nous demandent d'assister à ces auditions pour témoigner. On nous demande de prendre la parole devant les auditeurs pour dire combien le territoire est sensible à la volonté d'une école d'ingénieurs de développer des nouvelles formations et des nouveaux diplômes d'ingénieurs. Donc on nous passe la parole.
Mais je ne suis pas certain que notre parole soit totalement entendue. Et je vous... Alors, il y a des cas plus faciles que d'autres. Mais j'ai assisté, j'ai en tête deux ou trois auditions récentes où j'ai été quand même un peu déçu par une... Allez, on va le dire, une forme de fermeture d'esprit sur de l'innovation. Benoît disait tout à l'heure avec beaucoup de justesse combien dans ce monde qui bouge à une vitesse folle, il faut être agile et il faut être capable de en termes de prospective, d'identifier des nouvelles filières, des nouvelles technologies, etc. Si on empêche les écoles d'ingénieurs qui sont à la base de la formation d'être innovantes et de lancer de nouveaux diplômes avec en prenant des risques,
qui sont les fondements,
on tâtonne forcément quand on lance les premiers diplômes. Il faut bien que quelqu'un prenne le risque de former les futurs ingénieurs dont les entreprises auront besoin. Si la commission du titre d'ingénieur vient et au lieu d'encourager en modulant, en donnant des conseils, est là pour sanctionner en disant oui mais votre projet il est pas mature, là le marché n'est pas mature, vous n'avez pas fait la preuve que vous aviez assez de lettres de recrutement, de pré-recrutement d'entreprise pour justifier la création d'un nouveau diplôme, c'est complètement fou. C'est-à-dire que vous demandez à une école d'ingénieurs, au moment où elle est en train de prendre un risque, de mettre des moyens et de créer une nouvelle formation, c'est pas facile de faire une formation d'ingénieur. Ils prennent des risques, ils demandent la labellisation, le seul message qu'ils reçoivent c'est « attendez, prouvez-nous par des lettres, des courriers d'entrepreneurs qui prennent l'engagement de vous recruter dans 4 ans vos ingénieurs. » C'est scandaleux. Et j'ai assisté.
Prendre des risques.
J'ai assisté à ça. Et donc, ce que je voulais dire, c'est que pour que les mentalités changent et qu'on évite ce qui a été cité tout à l'heure, il y a un travail à faire sur les formations. Il faut encore avoir les hommes et les femmes derrière qui vont capables de faire ça. Donc, un gros travail à faire avec l'enseignement supérieur en leur enlevant à eux-mêmes les pesanteurs qu'ils subissent, telles que je viens certaines de les imaginer. Et puis, de mon point de vue, il y a un gros travail à faire aussi auprès des acheteurs qui sont c'est un métier.
Complètement.
Le métier de l'achat, c'est un métier. Et là aussi, je vais dire un truc un peu cruel, mais on a tous nos pesanteurs dans tous nos métiers, plus ou moins. Mais moi, je rencontre souvent des acheteurs, et ça a été dit par Benoît Jean tout à l'heure, qui ont quand même des mauvaises habitudes. Au bout d'un moment, l'habitude tue. Ils sont dans le process d'achat qui se renouvelle d'année en année avec les... Ils ont pris l'habitude d'avoir les mêmes fournisseurs, ils discutent plus les prix, et c'est simple, on a nos petites habitudes, on sait qu'on va actionner tel un tel et que ça va marcher. Il n'y a plus la prise de risque. Et donc, à partir de là, on a des acheteurs qui reproduisent d'année en année les mêmes typologies sans avoir la curiosité d'aller essayer une nouvelle technologie, d'essayer un nouveau produit. Alors, à l'heure des charges, et ça, c'est le problème de la France, c'est que si ils prennent un risque et que la technologie qu'ils ont sélectionnée, à la fin, elle ne marche pas, ils vont se faire taper dessus, évidemment, par leurs dirigeants, qui vont dire, t'es un mauvais acheteur, tu m'as mis dans les pattes d'une entreprise qui n'avait pas la capacité, ça s'est terminé mal, et du coup, tu es un mauvais acheteur. Tout ça pousse à un certain conformisme.
Oui, ça, c'est un peu anesthésiant.
C'est un peu le mal français qu'on décrit, finalement. Le mal français, mais on voit bien où sont les problèmes. Ils sont dans ces sujets, ils sont dans la capacité des écoles de formation d'imaginer les technologies du futur et de préparer 4-5 ans en avance les ingénieurs qui sortiront ou les techniciens supérieurs avec ça, il faut prendre un risque. Et de l'autre côté, les acheteurs qui, sous prétexte de conformisme et de refus de prendre de risques, finalement restent dans les technologies classiques et refusent d'essayer. Voilà. Et
Vous me faites revenir quelques années en arrière.
Nos amis chinois qu'on connaît bien, qui ont plein de défauts, mais qu'on connaît bien, eux, ils prennent des risques inouïs.
Ils prennent des risques inouïs.
Et c'est peut-être une des raisons de leur succès, d'ailleurs, technologique. Dans le photovoltaïque.
Oui, mais faut pas hésiter à changer les habitudes, autant pour les acheteurs, mais une petite parenthèse. Pour nos métiers, ou dans le bâtiment ou autre, souvent, on s'abstient de faire intervenir un maître d'œuvre. Ça peut être un architecte pour eux. Donc on se dit, on va faire l'économie d'un architecte ou l'économie d'un bureau d'études.
Mauvaise pioche.
Parce que l'entreprise ou les entreprises vont faire leur prix un peu adapté avec le bon conseil d'amis. Mais à la fin, ça risque d'être difficile à gérer. Tandis que quand on a un maître d'œuvre qui est là pour accompagner l'entreprise... Ben en général, ça se passe pas trop mal. Et quand il y a un souci, ben il y a quelqu'un qui parle et d'égal à égal. Donc, le prix d'un maître d'œuvre, ça fait pas augmenter du tout le chantier ou le.
Je le confirme et on a une expérience. J'ai un cas pratique en tête puisqu'il y a on accompagne actuellement. Là, je veux pas donner le nom parce que c'est un peu confidentiel, mais on a une entreprise, une grosse entreprise chinoise qui a été retenue pour fournir des produits dans le domaine cosmétique en Europe et en France. Ils ont besoin de produire en France et on a réussi à les convaincre. On les suivait depuis 11 ans. Hein,
ça. Ah oui.
Et on a fini par les convaincre d'installer une usine dans le Val d'Oise. Donc l'usine est en construction, dans un bâtiment. Enfin, en fait, ils sont partis d'un bâtiment existant qu'il faut complètement réhabiliter et renouveler, et installer les lignes de production cosmétique avec des machines qui viennent de Chine, qui sont extraordinaires en termes de compétences technologiques. Sauf que nos amis chinois, qui découvrent un peu les différences interculturelles, et malgré les conseils qu'on leur a donnés, ont décidé de faire exactement de ce que vient de faire Benoît Jean. Ils ont dit, bon, on va se débrouiller comme des grands, on n'a pas besoin de passer par un bureau d'études, etc. Ça a été la catastrophe. Ils ont eu des problèmes en matière de... Ils ont fait installer une mezzanine métallique, ils ont plein d'adaptations du tableau électrique. Enedis a refusé de venir les connecter parce qu'ils avaient mis un matériel chinois qui n'était pas compatible,
etc.
Je
me permets, j'ai exactement le cas pour faire un peu parler de Effervescence, qui est un salon tous les ans, avec parce que je suis aussi membre de l'ADPAVAB, au bureau, et c'est quand même une organisation assez intéressante. Et lors d'un salon, j'ai un confrère avec qui je travaille régulièrement, qui s'appelle François-Xavier Mondésir, qui fait plutôt des expertises électricité, qui peut travailler avec nous aussi pour des compléments. Donc on travaille en bonne intelligence entre entreprises. Et il m'évoque une usine, je ne donnerai pas les noms, mais ils sont japonais, avec un équipement de machines qui devait se faire, et ça se passait mal et autres, compliqué. Et puis il avait évoqué, mais il y a un bureau d'études qui est à 2 mètres là, va le voir. J'ai vu, enfin il est venu me voir, je suis allé dans leur usine, et on les a aidés à refaire la conception de tout, et là le bonheur.
Mais voilà, mais on a
et là ça coûtait moins cher puisqu'on a fait un cadre, l'entreprise n'est pas partie dans tous les sens.
Vous avez su résoudre des solutions qui étaient pratiquement insolubles.
Exactement.
On a eu le même sujet avec la société chinoise. Donc comment ça s'est terminé? Ils ont patiné, ils ont pris du retard. Il y a eu des négociations intenables avec les
sociétés japonais.
Avec nous c'était les Chinois et avec la société, avec les collectivités locales, etc. qui voulaient plus délivrer les permis d'adaptation, etc. Et avec Enedis qui voulait plus les connecter, c'était dramatique parce que ils avaient des commandes qu'ils devaient fournir dans des délais précis. Ils ont commencé à paniquer. Là, ils sont revenus nous voir et on leur a dit, mais on vous l'avait dit. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? On leur a sorti une liste de 9 ou 10 bureaux d'études et on leur a dit, prenez un cabinet d'études techniques qui va vous accompagner.
Pour ça, je reviens.
Et ils ont fini par le faire. Et là, ça a l'air maintenant d'aller mieux. Mais enfin, c'est le béaba.
Je reviens sur ça pour 30 secondes par rapport aux ombrières photovoltaïques, et c'est un peu ce qui se passe. Beaucoup d'entreprises ont la force de communication, comme pour les panneaux solaires chez les particuliers, de dire, viens, on va venir vous installer les panneaux, les meilleurs panneaux, top, c'est les entreprises, c'est leur job, ils font ça. Mais il n'y a personne qui cadre. Donc, si on a envie de mettre des ombrières sur son parking ou autre, parce que la réglementation aussi nous l'impose, je ne vais pas rentrer sur ces réglementations, ça va saouler tout le monde, mais en tout cas, on nous l'impose, contacter un bureau d'études qualifié.
De la même façon que les gens qui veulent construire une maison tout seul ont parfois intérêt, quand elle a une certaine taille, une certaine complexité, à faire appel à un bon architecte.
Exactement. Enfin,
nous, on fait partie de ceux qui, auprès des entrepreneurs que l'on accompagne, on leur dit toujours, attendez, et a fortiori, ce qui est notre cas, quand vous avez des gens qui viennent d'un pays étranger. Parce que l'interculturel, en plus, ils n'ont pas la même façon de fonctionner. Un Chinois ne fonctionne pas comme un Français et il ne connaît pas les mêmes réglementations. Donc moi, je leur ai dit tout de suite, mais faites-vous accompagner par de l'assistance à la maîtrise. Et c'est le béaba. Mais parfois, pour des questions un peu culturelles ou en disant on va économiser quelque chose, on le fait pas.
Je connais une entreprise qui saura monter l'installation.
Voilà. Ben non. Et à la fin, ça finit mal.
L'émission va arriver à sa fin. C'est votre débat est passionnant et je crois que ça pourrait continuer longtemps. Mais comme je vous le dis à chaque fois, vous reviendrez pour compléter tout ce que. Parce que je crois que vous nous avez pas tout dit, Jean-François. Donc il faudrait qu'on reprenne rendez-vous dès aujourd'hui.
Toujours le plaisir à venir partager sur des projets qui touchent le territoire avec vous.
Mais en tout cas, vraiment merci à tous les deux pour votre expertise et vos défis chacun. Donc vos parcours reste une belle illustration de la dynamique de l'attractivité des énergies renouvelables en France. Un mot avant de nous quitter de conclusion, donc peut-être Benoît.
Oui, je veux bien. En tout cas, merci pour l'invitation d'IDFM. une radio que je connais pour mon émission.
C'est vrai.
Grabuge, mais bon, voilà, on peut avoir des passions.
Grabuge tous les dimanches soirs.
Tous les dimanches soirs, de 23h à minuit.
Oui. Pour les initiés.
Pour les initiés et les non-initiés, ça permet.
Pour ceux qui se couchent tard, quand même.
Pour ceux qui se couchent tard. Mais on peut les écouter en podcast, c'est toujours sympa. Et aussi pour rappeler que Phaseo est en développement encore au bout de 20 ans avec notre agence qu'on vient de créer à Nantes. Donc, ne pas hésiter à aller sur les sites internet, aller voir un peu ce qu'on fait, et puis de nous solliciter pour toute question. Ça coûte rien, une question, ça pose. Enfin, ça coûte rien. Une petite question, faut pas hésiter à le faire.
Oui, voilà, très bien. Bah, écoutez, j'espère que nos auditrices et auditeurs suivront votre conseil. Jean-François Benon, merci également toujours pour votre, je le répète à chaque fois, mais je le pense sincèrement, votre passion et à faire que le territoire du Val d'Oise soit un territoire d'excellence.
Mais on est fiers de ce territoire, on le vit évidemment au quotidien, et notre grande joie, nous, c'est d'accompagner ceux qui prennent des risques, les entrepreneurs, quelle que soit leur taille, quelle que soit leur origine, quel que soit leur parcours. Chaque jour, pour nous, dans une agence de développement comme la nôtre, ce sont des rencontres. C'est des rencontres avec des hommes et des femmes qui prennent des risques, qui décident.
Vous en prenez.
On en prend aussi, de plus en plus, parce que les financements publics, c'est pas la panacée, croyez-moi, en ce moment. Mais enfin, on prend des risques, bien sûr, mais qui sont un peu plus mesurés. On a quand même une petite filet de sécurité qui est de plus en plus tenu. Mais enfin, bon. Mais en tous les cas, on rencontre et on est très respectueux de tous ceux et toutes celles qui choisissent le Val d'Oise pour venir justement innover, entreprendre, prendre des risques. Et on essaye à notre place, évidemment, de leur faciliter la vie. Un des grands éléments d'un métier comme le nôtre, c'est ce que vous faites également ici très bien dans une radio. Une grande partie de nos journées, c'est de faire se rencontrer des hommes et des femmes.
C'est vrai.
Et on écoute, on est comme une éponge, on apprend énormément dans des domaines très différents toute la journée, ce qui rend nos métiers passionnants d'ailleurs, parce que on est le matin sur la cosmétique, l'après-midi sur l'aéronautique, le soir sur les questions de systèmes électroniques embarqués, etc. On fréquente des pays de toute nature et du monde entier. C'est extraordinaire sur le plan de tout ce qu'on peut apprendre.
Oui, intellectuellement,
c'est vivifiant, mais le secret de nos métiers, c'est à la fin de permettre à des porteurs de projets, des investisseurs, des créateurs, des entrepreneurs, de leur faciliter la vie en leur permettant de rencontrer d'autres partenaires qui vont pouvoir, en s'associant avec eux, en les aidant, en leur apportant des technologies ou des solutions, quelles qu'elles soient, immobilières, financières, technologiques, etc., de réussir leur projet. Nous, on est là, on se met au service de tous ceux qui entreprennent dans ce département, quelle que soit leur nationalité d'origine, leur pays, leur spécialité, leur technologie. On se met à leur service et on essaye de leur faciliter, d'être des facilitateurs, de leur faciliter la vie pour que, à la fin, in fine, ils se disent, j'ai bien fait de choisir le Val d'Oise pour venir lancer mes projets. Et on est heureux, évidemment, et ça nous arrive toutes les semaines, de venir couper des rubans ou d'assister à des succès. Dans la semaine qui vient, dans les deux semaines qui viennent, on a énormément d'inaugurations qui se dessinent, y compris d'ailleurs la nouvelle usine de Dassault Aviation, 50 000 m², une des plus grandes usines de France, qui va être inaugurée à Cergy le 23 septembre. C'est quand on en arrive à ce moment du couper le ruban, ou la société Sisax qui vient de quitter les Yvelines pour implanter un très bel établissement ultramoderne à Jouy-le-Moutier, qui va inaugurer la semaine prochaine. Chaque inauguration comme ça, c'est un bonheur, un plaisir, parce que c'est la concrétisation de ce travail partenarial, et puis du fait qu'on a des entrepreneurs qui aiment le Val d'Oise, qui ont fait le choix de s'y installer, d'y vivre et de se développer. Voilà, c'est notre récompense et on aime la partager.
Eh bien, écoutez, infiniment merci à mon tour de conclure qu'au terme de vos interviews, on peut dire que l'attractivité économique et la transition énergétique sont les deux faces d'une même pièce. Celle d'un territoire résilient, mais tourné vers l'avenir. Et quelle évidence, le Val d'Oise a des cartes majeures à jouer. On en est persuadé. Merci donc, merci pour votre venue. Et puis, vous êtes toujours les bienvenus dans cette émission.
Merci à vous.
Merci à vous, chères auditrices et auditeurs, pour votre fidélité. N'hésitez pas à nous faire part vos questions ou idées sur ces sujets via nos réseaux. Merci Francky pour la technique. Retrouvez le podcast de cette émission sur le site idfm98.fr. Et si cette émission vous a plu, bien n'hésitez pas à la relayer autour de vous. Mardi à 9h30, je vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro de l'économie en direct. Belle journée et bon week-end.